Accès libre.
Bon vendredi pour ceux qui nous écoutaient à l'origine de cette semaine. Accès libre, donc version vendredi 12 décembre, c'est l'avant-dernière de l'année 2014, où il sera question, entre autres, d'une recherche pour un médicament pouvant permettre la marche aux tétraplégiques qui est en péril. Et trop souvent, hein, vous savez, on blâme les instances, le manque de financement et tout, mais là, la recherche est en péril faute de candidats. Alors, on a besoin de personnes tétraplégiques. On y revient en fin d'émission. Nous allons également causer avec, entre autres, Linda Gauthier, qui est présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, la COFAN et le RAPLIC, qui poursuivent le ministre Sam Ahmad, ministre du Travail. On va voir pourquoi. Entre autres, il y a le Code du bâtiment là, qui ne fait vraiment pas l'unanimité. Je suis content qu'il y en a qui aient décidé de se présenter au bâton pour essayer d'élucider cette histoire-là. Ça cause des sautes d'humeur parfois. Laurence Parent revient de New York. Elle est à Montréal depuis 2 semaines. Elle qui est allée passer 2 mois, 2 mois et demi là-bas pour comparer l'accessibilité. Et en même temps, pour poursuivre ses études. Et on démarre comme ça, avec, pour la 2e fois cette semaine, mon patron, parce que si c'est ma patronne. Dans Ça vaut le détour, c'était mon patron télé. Dans Accès libre, c'est ma patronne radio. Marjorie Théodore, bonjour.
Bonjour, Luc.
Directrice générale de Vues et Voix. Et je me disais, bon, l'année achève. Il y a eu Fête des bénévoles la semaine dernière. J'avais envie d'un petit constat. J'avais envie d'avoir la réponse également à certaines questions. Il y a déjà, depuis quoi, 1 an et demi à peu près, je pense, oui, eu des changements dans la façon d'octroyer le financement à l'organisme. Maintenant qu'on est un petit peu plus habitué avec cette nouvelle façon où BANQ commande des livres et on les vend à BANQ, comment on s'en tire?
Alors, c'est sûr que ça a été tout un changement pour notre organisation qui est habituée depuis plusieurs années à produire des livres. Avant, c'était sans la demande de la BNQ. À l'avenue de la BNQ en 2004, on a eu une façon de procéder où on produisait pour la BNQ. Mais en restant quand même autonome. Alors, cette année, ça a été un virage à 180 degrés où maintenant, il fallait que l'organisation réponde à un appel d'offres. Alors, nous n'étions pas du tout habitués à ça et on a fait nos devoirs et on a eu des résultats positifs. Nous avons gagné cet appel d'offres. Mais cependant, oui, de l'avoir gagné, mais beaucoup de changements à l'interne. D'abord, sur notre façon de faire, sur le temps donné pour la production d'un livre. Hein, parce qu'avant, on savait que on fait affaire avec un modèle qui retient les services de bénévoles. Donc, le bénévole vient 2h30 par semaine et termine un livre à peu près entre 4, 5, 6 mois et même parfois plus longtemps pour les livres qui ont 1000 pages et plus. Ouais. Et là, on a une restriction. Il faut terminer ces livres en moins de 3 mois. Donc, ça bouleverse la chaîne de réalisation du livre, mais ça bouleverse aussi notre patrimoine et puis ce qui nous donne vraiment, une essence, les bénévoles. Alors, ça bouleverse leur façon de faire, l'appartenance.
On est parfois obligé de leur pousser dans le dos un peu plus.
Exactement.
Là, indépendamment du temps qu'ils ont à nous offrir.
Tout à fait, parce qu'il faut dire aussi que le bénévolat, c'est un bénévolat aussi de compétences, ouais, mais aussi très social. Ils venaient, ils rencontraient du monde, s'échangeaient, discutaient aussi au niveau des livres, mais maintenant, ils sont vraiment pressurisé, puis il faut le dire, parce qu'il faut qu'on réponde à cette obligation, parce qu'en bout de ligne, si on ne le fait pas, ben, ce sont des pénalités de retard. Et les pénalités de retard, ce n'est pas des pénalités sur le livre qui est en retard, c'est sur la commande en retard. Donc, ça veut dire si c'est une commande qui avait 40 livres et il y a un seul livre en retard dans les 40, ben c'est l'ensemble de la commande. On applique les pénalités sur l'ensemble de la commande. Donc, ça fait beaucoup de sous en bout de ligne.
Malgré ces craintes-là, ce que je vois passer comme information, c'est qu'on y arrive très bien et même que, malheureusement, on n'arrive pas à offrir à capacité maximale, en ce sens que ce n'est pas parce que vues et voix manque de bénévoles, de ressources ou de temps studio, mais bien parce que BANQ n'a pas les budgets pour en demander davantage.
Oui, ben tout à fait. C'est sûr que l'organisation, depuis les années, on a une capacité à se reprendre.
Hein? Bien sûr.
Et ça, je pense
on s'ajuste.
Que. Voilà, et puis je pense qu'on peut tous se féliciter et l'équipe du personnel aussi, parce qu'on arrive à s'ajuster et à répondre. Bon, c'est pas toujours agréable dans une organisation lorsque ça arrive souvent, mais au moins on se dit on a pu faire ça. Cependant, c'est très, c'est très difficile pour les gens, le personnel, mais aussi les bénévoles en ce sens. Il y a eu des années où on a produit beaucoup plus de titres, c'est-à-dire notre capacité à nous, on peut produire au-delà de 1000 titres,
ouais.
Ce qu'on a fait dans les années précédentes. Par contre, avec l'appel d'offres, on est réduit à réaliser 750 titres par année. Alors, ce qui fait que notre bassin de bénévoles aussi était nombreux. Donc, il y a beaucoup de bénévoles qui se sont trouvés à attendre qu'on leur attribue un livre. Ça a aussi créé des frustrations parce que nous avons avant tout des amoureux de la lecture qui rendent un service pour les usagers. Donc, ils sont très engagés. C'est vrai que malheureusement, ça a créé ce mécontentement au niveau de nos bénévoles.
Ouais.
Mais nous remarquons aussi que nous n'avons pas le choix d'avoir une gestion maintenant d'entreprise d'économie sociale. Nous sommes toujours dans la cause, mais notre gestion devient une gestion d'entreprise.
Mmh. Je remarque, bon, il y a 4 ans maintenant que je marche dans les corridors de Vues et Voix. Il y a eu une année, entre autres, où nous avions le premier... Appelons ça un gala, une soirée bénéfice. Je me souviens, Mme de Groseilliers était venue chanter et tout. Et on n'a pas récidivé. Donc, comment choisit-on la façon d'augmenter les revenus de l'organisme?
Alors, c'est sûr que dans les années précédentes, nous avons fait beaucoup d'activités de financement, dont le gala dont tu parles. Mais c'est après réflexion. Hein, c'est lorsque nous avons vu que les revenus de cette activité étaient très minces par rapport à l'effort et au temps que ça coûtait à l'interne. Et ça arrivait aussi à un moment où les organisations doivent revoir leur façon de collecter de l'argent parce que il y a plus vraiment d'argent qui traîne. Alors, il faut faire beaucoup plus d'efforts, mais il faut être beaucoup plus original, créatif. Et c'est pour ça que nous, on a décidé d'arrêter cette activité-là pour mieux réfléchir et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est sûr que ce qui serait mieux pour Vues et Voix actuellement, c'est qu'on ait un clé en main, c'est-à-dire qu'on ait des gens qui organisent l'activité et qui nous redonnent tout simplement
une partie. Ouais.
C'est un peu pour ça.
Où en sommes-nous avec la campagne de financement?
La campagne de financement, nous l'avons débutée il y a 3 ans. Nous avons dû arrêter cette campagne.
Okay.
Oui, nous avons dû arrêter cette campagne de financement pour une raison très simplement. En avril 2012, où on était en plein dans la campagne, nous avons su que la subvention octroyée annuellement par le ministère de la Culture nous était retirée.
Oui, le changement dont on parlait plus tôt.
Dont on parlait plus tôt. Donc, ce qui fait que nous avons dû arrêter cette campagne de financement parce que lorsqu'on parle d'une campagne, on parle aussi de frais pour effectuer cette campagne. Donc, nous avions un montant de 439 500 qui, dans le début d'une année budgétaire, n'était pas octroyé. Donc, on a dû malheureusement prendre les décisions qu'il fallait et arrêter cette campagne. Les gens, plusieurs personnes pourraient dire, oui, mais pourquoi on n'a pas continué la campagne? Mais continuer la campagne, c'est continuer avec un budget pour la campagne
ouais,
aussi.
Ouais, ouais. Marjorie, il était question, avec cette campagne de financement, de modifier les cabines, de peut-être penser à se relocaliser. Il y avait plein de projets. Est-ce qu'on est obligé maintenant de soit remanier ou laisser ces projets-là de côté, d'autant plus qu'on répond à la demande de BANQ? On est comme victime de notre succès. On pourrait produire davantage de livres, mais la commande ne vient pas.
Oui, tout à fait. Alors, nous, ce qu'on pense, et puis c'est comme ça qu'on le diffuse dans notre plan stratégique de développement, c'est que ces projets-là ont été mis en suspens pour se concentrer sur la problématique qui était d'avoir cet appel d'offres-là pour sécuriser l'organisation, puis de répondre à cet appel d'offres-là. Et aussi, il faut dire que la BANQ est notre seul client. OK? Alors, dans le plan stratégique de développement, nous, ce qu'on prévoit, c'est vraiment aller vers d'autres clients, c'est-à-dire produire d'autres livres pour d'autres clients, pour des entreprises, parce que des livres sonores, des livres audio, je parle toujours, parce que la BANQ, jusqu'à présent, nous dit que ses budgets n'augmentent pas et ça sera toujours ce nombre-là de 750 titres Nous avons une capacité plus grande.
Je ne sais pas si je vais dévoiler quelque chose que je ne devrais pas dévoiler, mais je sais également que pendant longtemps, on a travaillé, vues et voix, en collaboration avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, pour essayer de trouver peut-être une façon plus rapide, moins coûteuse, avec une synthèse vocale éventuellement, de produire des livres. Est-ce que cette démarche-là a toujours lieu?
Oui, cette démarche a toujours lieu. Ça a débuté en projet pilote et maintenant, nous avons pu gagner aussi l'appel d'offres pour la production de livres en voie de synthèse de la BANQ. Bon, c'est 20 titres. On commence par 20 titres, mais c'est 20 titres que nous réalisons. Donc, cette expertise, nous l'avons.
Qui choisit les titres, BANQ ou Vues et Voix?
Toujours BANQ.
OK. Donc, eux disent, ceux-là, voix humaine, ceux-là, voix synthèse.
Voilà, exactement. C'est ce qui a lieu. Bon, il faut dire que dans la voix de synthèse, il y a aussi d'autres joueurs. Hein. Il y avait quand même trois autres entreprises qui ont aussi soumissionné. Alors, nous l'avons gagné cette fois-ci. Nous répondons aux exigences, mais c'est une expertise qu'on a et on peut poursuivre à faire d'autres livres en voix de synthèse.
Je ne sais pas si vous avez... Moi, je ne les ai pas entendus. Les avez-vous entendus? Pensez-vous que l'usager, le lecteur, va aimer en bout de ligne?
Oui, il faut dire c'est un projet avec lequel on a été prudemment. Donc, il y a eu un sondage qui a été fait préalablement auprès des usagers. Les résultats disaient que oui, c'est vrai qu'ils adorent la voix humaine, mais qu'ils étaient quand même prêts à écouter des livres en voix de synthèse. Alors, c'est pour ça que nous avons été assez timidement dans ce projet. Après le sondage, là, la BANQ a décidé d'ouvrir, de faire une ouverture en ce sens, donc de prévoir des livres en voix de synthèse, mais il n'y en a qu'une vingtaine dans le premier appel d'offres. Donc, nous allons voir si ça va se poursuivre.
A-t-on une idée, Marjorie, du temps sauvé par, justement, une façon de travailler plus mécanique? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à, comme usager, avoir des livres encore plus rapidement, éventuellement, à cause de cette voix synthèse?
Oui, en effet, on sauve du temps. Bon, je ne pourrais pas vous dire exactement le temps, mais c'est sûr qu'on sauve du temps dans le procédé. On pourrait faire plus de livres en voie de synthèse, mais il faut aussi signaler que ce ne sont pas tous les livres qu'on peut faire en voie de synthèse. Alors, il y a toujours ce problème qu'il faudra résoudre dans le choix des titres qui peuvent se faire en voie de synthèse.
Vues et voix, maintenant, regarde vers où, compte tenu de ce qu'on a dit, le changement au niveau des fonds, Heureusement, nous remplissons la commande. Il y a des choses qui ont été en suspens, particulièrement lorsque vient le temps de tenter d'augmenter les revenus. Donc, on regarde vers où, là?
Bien, Visevoix, actuellement, je crois qu'elle vit, c'est une organisation qui vit dans son temps. Alors, c'est-à-dire que nous avons réagi à un changement qui nous était imposé dans notre organisation, mais Visevoix regarde localement, regarde au niveau national et regarde au niveau international aussi. Parce que c'est une organisation qui a beaucoup de potentiel et qui peut faire encore plus. Maintenant, c'est nous consolidons la partie avec l'appel d'offres. Bon, nous avons quand même 2 ans à faire et ensuite, il faut recommencer hein, l'exercice. Ouais, ouais. Mais en attendant, Visevoix regarde d'autres alternatives, enregistrer des livres aussi dans d'autres langues. Donc, tout ça est sur la table parce que ce qu'on veut, c'est vraiment que l'organisation puisse traverser les temps et aussi être une organisation actuelle.
Et où en sommes-nous dans le soutien de production de livres entiers?
Alors, nous avons 2 projets. Donc, ces 2 projets qui sont avec l'Union francophone des aveugles. Hein. Donc, comme tu sais, je siège sur l'Union francophone des aveugles à titre de secrétaire générale. Donc, je suis responsable des projets qui ont lieu dans l'Amérique francophone. Alors, on parle de la Caraïbe francophone et l'Amérique francophone, le Québec. Alors, nous avons été sollicités en ce sens pour un projet en Haïti. Donc, il y a une cabine d'enregistrement sonore qui a été mise sur pied en Haïti. Et 2 techniciens sont venus chez Visevoix pour avoir la formation. Donc, pour nous, c'est un transfert de savoir-faire. Et ce sont des projets qui sont financés par l'Union francophone des aveugles, Bibliothèque sans frontières. Et nous avons aussi un autre projet sur la Martinique. Alors, c'est 2 cabines d'enregistrement alors qui sont mises sur pied et donc aussi 2 techniciens viendraient aussi faire leur formation dans un temps qui n'est pas encore décidé.
Je me souviens également, Marjorie, que vous aviez pu discuter et obtenu avec le soutien d'un partenaire, l'envoi de lecteurs numériques, que ce soit, je crois que c'est quoi, c'était des Victor ou des... je me souviens plus, mais ça avait été une bonne nouvelle, ça, à cette époque-là.
Oui, avant ces 2 projets-là, nous avons aidé la Bibliothèque nationale d'Algérie à avoir une bibliothèque sonore. Et c'est à cette époque, mais ça fait quand même quelques années parce que nous n'étions pas encore en numérique. Alors, des lecteurs dans les projets sur Haïti et sur la Martinique, des lecteurs CD ont été envoyés, en effet, pour qu'ils puissent lire aussi les livres, parce qu'on parle toujours de livres sonores adaptés.
Ouais, ouais. Mais est-ce que ce partenariat se poursuit justement pour mettre à jour les équipements pour que les usagers là-bas, qui n'ont peut-être pas les moyens, puissent mettre la main? Ou c'était, on envoie une commande et malheureusement, bon, c'est gentil, mais c'est tout?
Non, ce partenariat se poursuit à travers l'Union francophone des aveugles, puisque ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent faire aussi leur production de livres sonores adaptés. Donc, ils doivent aussi pouvoir les lire. Donc, alors, ce sont des partenariats qui se poursuivent dans le temps. Mais Visevoix, ce qu'elle fait dans ces partenariats-là, c'est vraiment le transfert de savoir-faire. Ouais.
Ben, bonne continuité. Merci de nous avoir mis au parfum.
Ben, merci à toi, Luc. C'était toujours un plaisir.
C'est partagé, puis quand il y aura du nouveau, là, gênez-vous pas.
Ah ben voilà, merci.
Marjorie Théodore, présidente, directrice générale, donc chez Visevoix. Petit pont musical, déjà Laurence Parent est au bout du fil. On lui parle tout de suite après. Elle qui revient presque tout juste de New York.
Sur mon Big Wheel,
ah, les cow-boys fringants qui sont toujours d'adon lorsque nous sommes en retard. Bonjour, madame la doctorante.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Laurence, qui est arrivée de New York fin novembre, qui est allée là pour ses études. Vous êtes partie, quoi, deux mois et demi?
2 mois.
2 mois. Vous vouliez comparer l'accessibilité entre New York et Montréal. par vous-même et également en interviewant des gens qui connaissent les deux villes ou pas nécessairement?
Non, en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées ou presque n'avaient jamais été à Montréal, donc sont vraiment des gens qui connaissent leur ville.
Et qu'est-ce que vous vouliez vraiment savoir?
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir le lien entre un meilleur environnement physique, là, l'accessibilité, une meilleure accessibilité, puis la façon dont les gens, dans le fond, vivent leur expérience en ville. Là. Ouais. Est-ce que les gens sentent qu'ils font plus partie de leur ville lorsqu'ils ont accès, par exemple, aux transports en commun ou aux différents lieux publics?
Mais en même temps, Laurence, tout ça est arbitraire en ce sens. Tout dépend, disons, d'où ils viennent, ce qu'ils ont connu dans le passé. Je veux dire, quelqu'un va peut-être avoir moins que l'autre et s'en satisfaire davantage.
Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ce qui est intéressant aussi. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi plusieurs perspectives sur ces questions-là. Puis on tend beaucoup, par exemple, à Montréal, pendant plusieurs années, j'ai milité encore pour une plus grande accessibilité, puis on a comme un discours disant, bon, l'accessibilité universelle, c'est notre objectif, que si on atteint ça un jour, ben les problèmes vont être pas mal réglés.
Ouais.
Mais dans le fond, c'est ça, on est tous très différents, puis dans le fond, on vit plusieurs formes de discrimination aussi, là. Quand on parle à une personne, par exemple, d'origine hispanophone, dont la famille est très pauvre, c'est pas la même chose que lorsqu'on parle à quelqu'un qui vient d'une famille riche, blanche. C'est pas du tout la même réalité, puis je trouve ça important, dans le fond, de donner une voix à ces personnes-là.
Votre réseau, parce que je présume que ce soit par le biais de professeurs, de contacts, de pages Facebook... votre réseau, vous qui êtes militante, bon papier en passant dans le... C'était le Devoir jeudi dernier, je crois?
Oui, avec Marie-Ève Veilleux.
Oui, c'est vrai. Votre réseau est probablement des gens militants, ce qui fait qu'ils seront peut-être un petit peu plus critiques, un peu plus pressés. Est-ce que vous avez pu avoir, justement, des nuances?
Oui, parce que même parmi les gens... qui s'impliquent ou qui sont plus intéressés, c'est pas tout le monde qui a les mêmes positions. Hein. Mmh. Tu sais, il y a des gens que j'ai interviewés qui, par exemple, sont satisfaits du transport adapté, même s'ils sont engagés dans certaines associations,
ouais.
Alors que d'autres ne le sont pas.
OK. Vous n'avez pas commencé les entrevues à Montréal.
Non, pas
mais
encore.
Vous avez quand même une idée du pouls, en général.
Du où?
Du pouls.
Okay.
Oui. Est-ce que vous sentez, sans avoir toutes les précisions, qu'il y aura une différence en bout de ligne entre la perception new-yorkaise et montréalaise?
Je crois que oui. Je crois que ça va être très intéressant. Mais pour moi, de faire ça, en fait, ça m'a permis aussi de prendre un certain... pas un recul, mais parce que dans le fond, dans mon travail... évidemment, j'ai une position, je suis activiste, mais il faut également que j'apprenne à vraiment écouter les gens avec qui je parle. Puis aussi, un truc qui est très important dans la recherche, c'est que la neutralité, ça n'existe pas vraiment.
Ouais.
Donc, c'est vraiment des conversations avec les gens que je fais. Puis moi, en tant qu'étrangère à New York, c'était très différent. Parce que je connais pas du tout la réalité. À Montréal, je la connais mieux. Donc, les discussions vont être différentes, évidemment. Mais en même temps, c'est sûr que le langage n'est pas le même. Hein, pour parler notamment de discrimination, on n'utilise pas les mêmes concepts. L'histoire est très différente. Le lien avec le milieu aussi est très différent.
Ouais, ouais.
Aux États-Unis, le milieu n'est pas aussi organisé qu'ici. Ici, à Montréal, c'est très fort. Il y a des organisations qui sont très présentes, qui ont des liens très, très, très proches avec la ville, avec différentes instances. Tandis qu'à New York, c'est un peu plus... c'est moins organisé.
Et pourtant, vous me disiez quand même, lorsqu'on s'est parlé mercredi, que les bus sont très accessibles, qu'un quart des stations de métro le sont. Donc, moins de chiens de garde, mais quand même plus de résultats.
Oui, ben en fait, des chiens de garde peut-être différents, dans le sens où un chien de garde est une loi qui ça, de toute évidence, a plus de mordants qu'au Québec, ça c'est évident.
Ouais.
La façon aussi, juste l'organisation de la société. C'est je veux dire, les États-Unis et le Québec, c'est quand même deux mondes, là, au point de vue de qui s'occupe de quoi dans la société, là. C'est complètement différent. J'ai rencontré beaucoup d'artistes qui sont très impliqués pour, dans le fond, lutter contre les représentations discriminatoires des personnes handicapées. Donc, à travers l'art, ça, c'est un mouvement. Il y a des choses aussi qui se font, évidemment, à Montréal, mais ça me semble moins organisé, dans le sens la communauté semble moins organisée entre elles. Qu'à New York, là, il y a vraiment un fort réseau où je suis allée dans des événements où il y avait vraiment... où la communauté se mobilisait beaucoup pour ça.
Vous avez, bon, vous parlez souvent d'accessibilité. Est-ce que votre questionnement allait également du côté de l'employabilité, du côté de, je sais pas moi, l'accueil social en général?
Oui, c'est sûr. Dans le fond, ce qui m'intéressait, c'est le sentiment d'appartenance. Mm-hmm. Puis quand on commence à parler de ça, dans le fond, on peut parler de tout. Parce que la personne, est-ce que... si elle n'a pas les services chez elle, à domicile par exemple, ben la ville aura beau être très accessible, elle ne pourra même pas sortir de sa maison pour en profiter. Tu sais. L'emploi aussi, c'est un enjeu important. J'ai parlé avec des gens aux États-Unis, c'est beaucoup ça, j'ai l'impression, il y a comme vraiment des extrêmes. Il y a des gens très qui ont été très privilégiés, qui ont pu bénéficier notamment de la loi sur l'accessibilité, des programmes comme ça, avec un bon réseau social, qui ont puis se trouver un emploi, et d'autres gens complètement défavorisés, complètement mis de côté, pour qui la vision libérale des choses aux États-Unis, qui est comme bon, on a des lois, puis tout ça, le système vraiment légal, mais pour eux, ça répond pas à leurs besoins.
Si tout allait vraiment bien, vous espériez interviewer une vingtaine de personnes. Si vous aviez à revenir déçu, ça aurait été avec 15 personnes. Vous avez dans vos bagages 16 entrevues. ça a été difficile ou pas?
Ça a été difficile, ouais, au tout début parce que je connaissais pas beaucoup de personnes. On peut vite se sentir intimidé dans une grande ville, ouais, comme New York. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et moi, où j'étais, ben, j'avais choisi d'habiter dans le cœur de la ville en me disant je vais pouvoir me déplacer plus facilement, je vais être plus proche des gens. Mais dans le fond, ça coûte tellement cher de vivre à New York que j'ai été frappée de ne pas avoir vu autant de personnes handicapées avec des handicaps visibles que j'aurais pensé.
La recherche sera remise quoi, l'hiver 2016?
Oui, le produit final, oui.
Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Là. Il va falloir rendre ça public. Absolument, absolument. Merci beaucoup, beaucoup, Laurence Parent, d'avoir partagé l'expérience.
Ben merci. J'ai aussi un blog sur Internet qu'on pourrait mettre sur votre site.
Vous laisserez les coordonnées à Rémi. Restez en ligne. Rémi prend ça pendant la pause. Puis nous, on revient avec Mme Gauthier du Raplic qui poursuit sa mamade.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Rémi Hermoso, Luc Fortin, Claudia Benoît aux réseaux sociaux, Lynn Gargano à la recherche... Et Linda Gauthier, présidente du Raplic, à qui on va donner la parole bientôt. Juste vous dire, tiens, tout en vous saluant, Mme Gauthier, bonne nouvelle. Le métro Champ de Mars qui est réglé.
Mais oui.
Pour ce qui est de l'accessibilité. Également, pour ceux qui connaissaient le goalball, un hommage chaudement mérité par l'Association sportive des aveugles du Québec, Mario Caron, qui est assurément, je pense, le plus grand joueur de goalball au Canada. Depuis que le goalball existe, donc Mario Caron a vu son numéro 7 retiré. Et j'essaie de penser, là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Peut-être juste saluer Isabelle et Marianne, Mme Ducharme et Mme Paquette qui ont, à pied levé la semaine passée, remplacé l'animateur. Et ça s'est très, très, très bien fait. Ça a été agréable et très humain. Que découvrir ces lauréats là, des prix à part entière. Bon, Linda, vous me dites si je me trompe, et on corrigera. C'est une plainte de discrimination fondée sur le motif du handicap contre le ministre du Travail et la régie du bâtiment du Québec à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
Exactement.
Le ministre du Travail a rejeté les recommandations adoptées par la régie pour inscrire dans le code de construction l'accessibilité résidentielle. Après 7 ans de travaux, disait le communiqué de la, la bon, on parle de milliers d'heures de travail. On parle de ce projet du CCQ qui a été pré-publié le 10 septembre dernier. Donc, ignore l'accessibilité de l'intérieur des habitations.
C'est ça.
Et de plus, bon, vous dites que le ministre Hamad ne fait rien pour assurer l'accessibilité des immeubles ouverts au public aux Québécois ayant des limitations fonctionnelles. Leur applique donc le regroupement des aveugles et... Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, depuis plusieurs mois, a monté un dossier pour étoffer sa plainte. Plainte conjointement logée également par la Confédération des personnes handicapées du Québec.
Appuyée, en fait.
Oui. Vous invoquez, Linda, le rejet des recommandations adoptées par la régie du bâtiment pour inscrire dans le Code de construction du Québec là, par le ministre Hamad. Pouvez-vous nous donner des exemples de recommandations? Pourquoi la plainte a été finalement logée?
Bien, en fait, nous, on y pensait quand même depuis un bon bout de temps, ne serait-ce que, ben, puis c'est déjà beaucoup, par rapport à l'accessibilité des immeubles ouverts au public, tout ce qui comporte, là, en fait, commerce, clinique, dentaire, garderie, école et tout ça. Et, ben, il y a eu le rapport que la COFAN a sorti en disant, en faisant appel, en fait, c'est un avis, là, en faisant appel à ses membres, en demandant l'aide de ses membres parce qu'il y avait justement la suggestion de la recommandation plutôt de rendre au-delà de la porte d'entrée qu'on fasse l'adaptabilité, qu'on pense, qu'on inclut l'adaptabilité des logements, des immeubles, des unités d'habitation plutôt, dans le Code de construction du Québec. Et ça, ça avait été retenu par la Régie du bâtiment. Mais ça n'a pas été entériné, en fait, par Sam Hamad, qui est le patron de la Régie du bâtiment.
Ouais.
Fait que là, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et comme on était le 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées, ben je me suis dit, on s'est dit au rappelé plutôt que ça allait être le meilleur moment pour déposer cette plainte-là, ce qui était fait finalement le lendemain matin.
Ce que je comprends, c'est que le ministre du Travail a refusé d'appliquer ce que la RBQ avait proposé. Pourquoi donc avoir également logé une plainte contre la régie?
Ben, c'est parce que la régie aussi, si on va sur son site web, fait état de plusieurs exemptions. Qui finalement nous discrimine, nous bouleverse notre vie, entre autres. Okay, toutes les stations de métro font partie des bâtiments exemptés pour la mise en accessibilité. Alors, il y a plein de bâtiments comme ça, les bâtiments. Ouais.
Mais les recommandations faites par la régie sont quand même favorable puisque le ministre a rejeté les recommandations adoptées par la régie. Donc, c'est pas la régie qui est à blâmer, mais son patron.
Le patron, mais je veux dire, il y a déjà des lacunes énormes du côté de la régie du bâtiment aussi. Alors, à partir de là, je veux dire, ils n'ont pas tout dit, OK, à partir de tout de suite, nous, la régie du bâtiment, on donne raison à Linda Gauthier puis sa gang, et puis il faut absolument que tous les immeubles ouverts au public soient accessibles. C'est pas ça qu'ils ont dit, là. Fait que c'est juste la dernière recommandation, finalement, qu'eux avaient acceptée et qui n'a pas été entérinée par Sam Hamad.
Par rapport au
bâtiment d'habitation.
Est-ce que vous avez, disons, le milieu, que ce soit à travers la COFAN, a été consulté lorsqu'on a tenté d'étoffer ces recommandations avant que le pré-papier soit rendu public? ou la prépublication?
Écoutez, moi, je sais, j'imagine que oui, mais moi, j'ai été longtemps sur le comité, un comité de travail à la COFAN, le comité environnement bâti et aménagement public, là, dont Sophie Langteau est évidemment sur ce comité-là aussi. Ouais, ouais. Je l'ai laissé à un moment donné parce que vous connaissez ma patience légendaire, Luc. Je trouvais que ça avançait. Je comprends là qu'ils font un merveilleux travail. C'est que je trouvais que pour ma patience à moi, c'est quelque chose qui nous discriminait, ne méritait pas le travail qu'on mettait sur ce comité-là.
Ouais.
Alors, c'est là que leur applique a commencé à monter ce dossier-là, greffé d'un livre blanc qu'on a fait faire par notre stagiaire que vous avez invité à votre émission à un moment donné, Romain Bousgarou, et sur l'inaccessibilité au Québec. Et puis, finalement, bon, on a étoffé, comme vous disiez tantôt, dans votre présentation, on a étoffé notre dossier, puis là, ben, on s'est senti fin prêt pour présenter notre plainte devant la commission.
Comment s'est négocié l'appui de la COFAN?
Ben, très bien, parce qu'on a fait la conférence de presse conjointement.
Mais je veux dire, comment ça se fait, ce genre d'association-là? Bon, ça se négocie de quelle façon pour ceux et celles qui n'ont jamais l'habitude de œuvrer dans le sein des saints, là?
Ben, c'est que, en fait, M. Lavigne a envoyé à tout le monde, à tous ses membres, en fait, puis même, je pense que c'est repassé aujourd'hui, un communiqué comme quoi, s'il y avait une lettre envoyée, finalement, au ministre Hamad pour changer la donne, pour revenir sur la décision et tout ça. Et moi, c'est là que j'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné à M. Lavigne. Puis j'ai dit, ben nous, leur appeler qu'on n'écrira pas de lettres parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce dossier-là.
Ouais.
Et ils connaissaient d'ailleurs nos intentions. Puis là, c'est là que je lui ai dit, ben nous, on dépose notre plainte à la régie du bâtiment pour discrimination fondée sur le handicap. C'est pas normal qu'il y ait... Moi, c'est surtout ça. Ben pas surtout ça, mais c'est... D'autant plus ça, qu'il y a 50 % des immeubles ouverts au public à l'échelle provinciale qui ne soient pas accessibles aux personnes handicapées. Et c'est là qu'il a dit, bon, ben OK, est-ce que tu prévois faire une conférence de presse? Oui. Et bon, c'est là qu'on a dit qu'on allait la faire conjointement.
Est-ce que
c'est passé le 3 décembre.
Est-ce que, bon, ce qui a été rendu ou conçu le 10 septembre dernier est un peu comme, disons, un livre vert, mais on prend les recommandations et il y a encore de l'espace pour manœuvrer, ou lorsqu'on parle de pré-publier, c'est souvent la version finale tout de même?
Ben c'est ça. C'est souvent la version finale, la pré-publication. C'est toujours un peu là, comme si le projet pilote qui devient finalement le projet comme tel. Mmh. Là, non, c'est... Moi, les pré-publications, je me méfie. Là, c'est souvent le produit fini.
Oui. Est-ce que, bon, Laurence Parent, la semaine dernière, entre autres, nous faisait état là, des trois gares du train de l'Est qui sont accessibles sur 13 en 2014. Ce sont des choses qui sont nouvellement construites. C'est aberrant. Est-ce que ce genre de truc-là, mis à part, on a parlé de clinique, on a parlé de... Mais est-ce que ça cadre dans la plainte?
Ben oui, ça cadrerait là-dedans effectivement parce que c'est quand même des nouvelles constructions et ça a beau être la gare de l'Est, l'AMT, tout ça, qui est construit sur des rails, du CN, puis il y a bien des acteurs impliqués.
Ouais.
N'en demeure pas moins, c'est quand même une construction qui est chapeautée par la Régie du bâtiment du Québec.
Ouais, ouais.
Fait que c'est ça. Puis tu sais, on se dit en quelque part, OK, c'est correct. Les autres stations qui ne sont pas présentement accessibles vont être prêtes en décembre 2015, dans un an. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à chialer encore, eux autres? Ben pourquoi ils ouvraient pas toutes seulement en décembre 2015? Pourquoi encore là donner des trucs à la population qui n'a pas de limitation, puis un an plus tard à ceux qui en ont?
Mais est-ce que ce que vous nous dites, c'est que les 13 gares seront accessibles en décembre 2015?
Il y en a deux qui ne le seront pas. Et là, écoutez, je ne me souviens pas des noms, mais il y en a deux qui ne le seront pas. Puis ça, c'est à cause de la faute. Faut que ça soit de la faute à quelqu'un. C'est pas de la mienne, je vous le jure, mais c'est de la faute du CN.
OK. Linda, j'ai quand même envie de prendre la balle au bon. Je veux dire, en ce sens, en tout cas, l'animateur se dit, ça donne rien de priver la majorité simplement pour que tout le monde l'ait en même temps, au même titre que on peut peut-être pas aider tous les itinérants, mais au moins si on peut n'aider 45, on va ouvrir nos portes aux 45 itinérants. Là. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais non. Je comprends.
Mais vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est correct.
Tant
que vous comprenez.
Oui, je comprends, mais je ne comprends pas. C'est ça. Non. J'ai pas la même façon de penser que vous. Et c'est malheureux, mais non. Je vois pas pourquoi nous, on serait en retrait, puis bon, ben c'est parce que ça va être plus long. Ben oui, c'est exactement la même chose, un peu comme la SCM, quand ils décidaient de lancer une ligne d'autobus, et puis 4 ou 5 mois plus tard, voire 1 an plus tard, là, on la mettait accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Ouais.
Sous prétexte que la courbe du trottoir ne respectait pas ou quelque chose. Ben ça, c'est des choses qu'il faut, selon moi, que ça soit prévu à l'avance. Et puis, tu lances ça en même temps pour tout le monde. C'est ça, l'inclusion sociale, ça va jusque-là.
Est-ce qu'il y a d'autres dossiers, mis à part ceux déjà évoqués, à savoir, bon, peut-être les dossiers personnels, on se souvient de celui à la STM, là, concernant votre carte et le vérificateur ou l'inspecteur,
oui.
Qui, bon, ça, c'est bon. Au mois de mai, on devrait avoir des nouvelles.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles leur applique planche qui peuvent être rendues publiques à ce moment-ci?
Rendues publiques, non. On a un secret bien gardé. Ça le sera très bientôt. Sauf que, disons qu'on travaille plus sur des grands terrains de jeu.
Mm-hmm.
Que sur de petits, et on essaie d'ailleurs de faire admettre une chose qui est bien, bien, bien importante qu'on fait systématiquement à la Commission canadienne des droits, c'est quand on a, par exemple, une succursale d'une banque qui n'est pas accessible et qu'on sait qu'il y en a encore peut-être 25 autres comme ça au Québec, on tente de prendre ça de façon systémique. Et à la Commission canadienne, c'est accepté. Sauf qu'on est frileux à cet effet-là, la Commission québécoise. Fait que là, on travaille très, très fort pour ce faire, parce que eux autres, ça leur prendrait un préjudice par succursale.
Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça avance. Ça, le dossier, dans ce temps-là, évolue très lentement. Là.
Ben voilà. Puis, écoutez, c'est parce que là, on serait obligé à ce moment-là de provoquer des plaintes. C'est bon.
Ouais.
Fait qu'on n'a pas des vrais plaignants, on n'a pas des vraies situations, c'est des mensonges. C'est pratiquement encouragé comme le travail au noir. Là. Voyez-vous le parallèle.
Linda,
on a quelque chose qu'on peut malheureusement pas rendre public encore.
Bon, on va arrêter de perdre du temps là-dessus. Une plainte en discrimination fondée sur le motif du handicap à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, au niveau du genre de sanction, si on était d'accord avec vous, ça pourrait représenter quoi?
Écoutez, ça pourrait représenter... Bon, là, on n'a pas établi encore de montant fixe comme tel. On a établi à savoir, ben là, c'est parce qu'il faut faire invalider certaines lois, OK? Il faut en faire valider d'autres. Fait que c'est quelque chose qui risque d'être très long.
Ouais.
On s'est dit qu'on allait déposer ça dans un premier temps pour la simple et bonne raison que ça urge, parce que là, il y a des réformes, des coupures un peu partout. Fait qu'on voulait, c'était comme un cri d'alarme en quelque sorte en disant, ben écoutez, là, on est à nous, on n'en peut plus. N'est pas dit qu'on ne changera pas ça pour un recours collectif éventuellement.
Ouais. Mais moi, en tout cas, c'est sûr que c'est toujours très, très, très décevant lorsqu'on voit des choses, disons, des constructions du passé.
Ouais.
Mais lorsqu'on voit des constructions actuelles qui ont des droits d'exemption, Ça, j'ai de la difficulté à comprendre.
Ben oui, énormément. Puis c'est pas, écoutez, ça interpelle pas seulement finalement le ministre du Travail. C'est sûr que c'est lui que là, il est directement visé parce que c'est lui qui est le boss de la régie du bâtiment. Mais ça interpellerait peut-être aussi, pas aussi, mais sûrement la ministre de la Justice parce que la Charte des droits est pas respectée, là.
Et pourtant, c'est elle qui était la représentante du gouvernement libéral au débat durant la campagne électorale, Mme Vallée.
Ben oui.
Ben oui. Merci beaucoup, Linda Gauthier.
Ben, c'est moi qui vous remercie, Luc.
Linda, qui est présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Petite pause et ensuite, avec Pierre Guertin, on va parler d'une étude qui pourrait se voir, amputé, voire stoppé peut-être, faute de candidats. Il est enseignant à la Faculté de médecine de l'Université Laval, fait partie également du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université Laval. Pierre Guertin, bonjour.
Oui, bonjour.
On parle donc d'une recherche qui est menée depuis quelques années dans le but de trouver un médicament qui pourrait faire marcher les personnes paraplégiques. Ça me semble ambitieux, voire, mon Dieu, life-changing, là, révolutionnaire. La recherche est en péril, cependant, nous disait Le Soleil il y a quelques semaines, faute de participants. Peut-être nous parler un peu de comment vous est venue l'idée, vous, là, vous les membres de l'équipe, que ce médicament-là pourrait éventuellement peut-être redonner vie à quoi? Des nerfs, des muscles?
Bien, c'est une trithérapie qui en fait... qui ne répare pas la moelle épinière selon les expériences qu'on a fait chez les animaux, mais ça vient réactiver des neurones de la moelle épinière de la région lombaire. Ce sont des neurones, des cellules nerveuses qui ont comme rôle chez vous comme chez moi de contrôler l'essentiel de la marche, donc l'ensemble des signaux électriques provenant du système nerveux puis envoyés jusqu'à nos muscles pour exécuter la marche. Et ce qu'il fallait savoir dès le départ, c'est que c'est pas largement connu, c'est que ces neurones-là sont épargnés dans la plupart des cas de blessures à la moelle épinière parce que ces blessures-là, généralement, sont au niveau cervical ou thoracique. Qui fait que on va les appeler les neurones locomoteurs de la région lombaire, sont épargnés dans la plupart des cas et ça devient un peu comme un réseau de neurones dormants. Donc, c'est un peu pour ça que les gens ne marchent plus après une lésion à la moelle épinière. C'est pas tellement à cause de la lésion, c'est parce que ces neurones-là, en l'absence de signal déclencheur normalement venant du cerveau, ben, ils deviennent comme endormis dans une période d'attente. Ouais. Donc, le projet dès le départ, c'était, sachant ça, c'était relativement simple. Dans le principe, c'était tenter de trouver des molécules qui viennent réactiver sur demande ces neurones-là afin de produire des épisodes de marche plusieurs fois par semaine et ainsi avoir un entraînement physique sur tapis roulant.
Est-ce que c'est le genre de... je vais poser ma question différemment.
Oui.
Selon ce que vous savez, si ça s'avérait... Quel serait le pourcentage des personnes paraplégiques qui pourraient profiter de ce médicament-là ou de cette trithérapie-là?
Bien, c'est un, selon nos expériences chez les animaux, puisqu'on utilisait un modèle animal avec une transection complète de la moelle épinière, là, ça marche merveilleusement bien chez des sujets donc qui sont qui ont une paralysie complète sous le niveau de la lésion, donc que ce soit une paraplégie ou une tétraplégie. Par contre, on ne sait pas de façon claire s'il y a des bonnes chances que ça fonctionne chez des gens qui sont lésés d'une façon incomplète. Donc, par exemple, dans le jargon, on appelle ça des individus qui ont une lésion de type asiacée ou asiadée, sont capables d'un certain contrôle de leur musculature sous le niveau de lésion. Chez ce type de patient-là, on n'est pas sûr que ça pourrait fonctionner. Par contre, chez ceux qui sont vraiment
plus hypothéqués,
oui, qui ont une blessure sévère de type ASIA A ou ASIA B. Ceux-là, on a toutes les évidences qui nous permettent de penser que ça marcherait aussi bien que chez les animaux. Parce qu'en fait, la moelle épinière, c'est la région du système nerveux central qui est la mieux conservée d'une espèce à l'autre. C'est vraiment les parties supérieures du cerveau qui ont évolué d'une espèce à l'autre au fil de l'évolution. Mais la moelle épinière, à toute fin pratique, on a la même moelle épinière que chez les poissons. Okay. Ça n'a pas changé. Fait que si ça a marché chez les rongeurs et on a essayé aussi des tortues, il y a toutes les raisons de penser que ça pourrait marcher chez l'humain.
Mais Pierre, vous incluez même les personnes tétraplégiques?
Oui, tout à fait.
Wow!
Parce qu'il est possible d'utiliser à notre avantage, qui est disponible déjà sur le marché pour soutenir ces patients-là dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il existe maintenant des tapis roulants, on le sait, mais avec un appareil qu'on vient joindre à ça qui supporte avec un harnais le corps de l'individu. Mm-hmm. Donc, avec ça, on peut penser quand même placer des individus sur un tapis roulant. Ensuite, en moins de 15 minutes après l'administration du traitement qui se fait par voie orale, c'est un comprimé, les jambes pourraient se mettre à marcher de façon stéréotypée et involontaire toutefois. Donc, ça ne permet pas un recouvrement de marche volontaire et autonome, mais c'est plutôt une marche, entre guillemets, réflexe et stéréotypé.
OK, mais il faut commencer quelque part.
Oui.
J'ai envie tout de suite, parce que c'est finalement le manque de candidats qui est la raison de cet entretien. On ne veut pas que autant les millions que les découvertes et le potentiel, retournent dans les... sous le boisseau. Je lisais dans le texte qu'on avait besoin de 36 candidats. Ça m'apparaît bien peu pour quelque chose d'aussi important. Comment se fait-il que vous manquiez de candidats?
C'est une bonne question. Je pense que ça a un lien avec le fait que ces gens-là sont souvent de retour à la maison après quelques semaines en centre de traumatologie et après ça, 2-3 mois en centre de réadaptation. Après ça, ces gens-là sont de retour à la maison et il n'y a pas nécessairement de listing des coordonnées de ces gens-là, même s'il y en avait, pour des raisons éthiques, on ne les transmettrait pas de toute façon. Donc, la seule façon de rejoindre ces gens-là pour nous, pour notre étude, c'est de soit via des articles dans les journaux, mais c'est très coûteux.
Ou espérer peut-être
Des articles, mais je veux dire de les publicités.
Mais le centre de réadaptation pourrait peut-être aussi approcher les gens dans leur banque de clients, là.
Oui, on est sur le point d'arriver avec une entente avec le centre de réadaptation de Trois-Rivières qui s'appelle l'Interval. Ça doit encore passer devant un comité d'éthique local. Mais c'est des moyens qui sont explorés.
Ouais. Pierre, il me reste plus beaucoup de temps, puis je veux vraiment... Donc, vous avez besoin d'un profil particulier, c'est ce que je comprends.
Oui, des hommes et des femmes qui ont une blessure traumatique, donc suite à un accident de voiture, de sport, des chutes, des gens qui ont une paralysie complète sous le niveau de la lésion, comme je disais tantôt, aucun contrôle des muscles sous la lésion, des adultes, pas d'enfants, pas de vieillards, donc entre 18 et 65 ans, des résidents de la province de Québec, donc partout au Québec, les gens sont invités à appeler le docteur Radhakrishna pour s'inscrire. Puis ce qu'on appelle des blessés chroniques, c'est-à-dire pas des gens qui sont nouvellement blessés, mais ceux qui sont blessés depuis au moins 3 mois. Ça veut dire à peu près, là, ça peut faire 10 ans que les gens sont blessés, il n'y a pas de souci.
Que sait-on des effets secondaires jusqu'à maintenant? Parce que c'est toujours la peur pour lorsqu'on s'implique dans une recherche.
Oui, mais en fait, c'est comme je disais, c'est une trithérapie, mais composée de 2 médicaments, le Buspar et le Sinemet, qui sont déjà approuvés par Santé Canada. Donc, oui, il y a des effets secondaires comme pour tout médicament.
Mais répertoriés.
Répertoriés et approuvés par Santé Canada. Ouais, ce n'est pas des choses intolérables. Par exemple, il peut avoir des nausées de créer. Parfois, ça peut arriver quelqu'un qui souffre de vomissements une fois ou deux, surtout dans les premières semaines, si quelqu'un le prenait de façon répétée. Mais c'est quelque chose de connu et ça disparaît. Donc, ça nous est arrivé une fois, un patient qui a eu un peu de nausée, qui a eu un vomissement, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas agréable, mais c'est pas quelque chose d'inquiétant.
Et en terminant, je disais que vous étiez membre de l'équipe de recherche au Centre hospitalier de l'Université Laval. Est-ce que faut se déplacer à Québec?
Non, l'étude a lieu à Montréal, au l'Hôpital général de Montréal. C'est une seule journée, donc c'est un test qui ne dure que quelques heures et les frais de déplacement ou d'hébergement sont remboursés jusqu'à concurrence de 500$. Et le numéro de téléphone à appeler, très important, c'est le 514, donc dans la région de Montréal, le 934-1934, puis c'est le poste 44-185.
OK, et si vous avez manqué, là, vous allez sur la page de Accès Libre. Et tout sera sur place et facilement accessible. Merci beaucoup, Pierre Guertin.
Bien, merci à vous.
Pierre, qui est enseignant à la faculté de l'Université Laval, également fait partie de ce centre de recherche. Merci à Rémi, Lynn, Claudia. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde.